Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le jeudi 2 décembre 2021. Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner au cours de cette heure, donc en français sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui, et comme chaque jeudi, nous parlerons de sport, d'économie à travers le pays, et nous partirons à la découverte d'un bar à vin mauricien. Mais pour l'heure, il est temps de passer au journal. On commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, tout comme Christian Porter. Le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, devrait annoncer qu'il quitte la politique fédérale aujourd'hui. Durcissement également en France des conditions d'entrée, donc en France et en Europe, sous la pression du nombre de cas de Covid sur le continent. On voit ça tout de suite dans ce journal. Le ministre de la Santé, Greg Hunt, devrait annoncer son départ de la politique après 20 ans de représentation du siège de Flinders. Il s'agit du deuxième départ d'un haut responsable du gouvernement en 24 heures après que l'ancien procureur général Christian Porter a déclaré hier qu'il ne contesterait pas son siège de Peirce en Australie-Occidentale lors des prochaines élections fédérales de l'année prochaine. La sénatrice du crossbench, Jackie Lambie, a déclaré qu'elle ne voulait pas avoir ses politiciens à la retraite se voir attribuer des emplois de choix ou des emplois arrangés par le gouvernement. On l'écoute.
For me, when people resign, the Liberal Party's just great at it, you know, always making sure there's jobs for mates, and we're getting a little bit sick of that. Usually they'll go out as an ambassadors, whether it's foreign trade. Australians have had a gutful of it, especially if you're not walking out under the right cloud or under the right light, and then you're given a promotion for that. It's just a disgrace. So I guess we're going to see what happens, and we don't know if there's more going to be stepping down over the Christmas period, that's for sure.
Ouais, donc la Jackie Lambie, la sénatrice du crossbench. Le Parti travailliste fédéral fait face aux critiques du secteur caritatif après que le parti ait contribué à l'adoption d'un projet de loi qui obligera dorénavant les organisations caritatives à déclarer leurs donateurs. La législation, qui a un effet rétroactif, signifie que les organismes de bienfaisance qui s'engagent dans les activités de plaidoyer politique devront désormais divulguer leurs donateurs lorsque le seuil de 250 000 dollars est atteint. L'accord a été conclu afin que la coalition abandonne son plan visant à obliger les électeurs de présenter une pièce d'identité lors des élections de l'année prochaine. Une décision qui, selon les défenseurs, priverait les Australiens autochtones, les migrants, les nouveaux arrivants et les sans-abri de leurs droits. Le porte-parole pour le Trésor, donc pour le Parti travailliste, Jim Chalmers, a défendu la décision de son parti. On l'écoute.
Charities are entitled to their view. One of the things that we've actually been fighting for is the ability for charities to express a view. For 8 years that we've been in opposition, and before that, that's an important principle for us. When it comes to voter suppression, let's just be blunt about this. The government was trying to disenfranchise the most vulnerable voters in Australia, and that is shameful. And I'm pleased to see the back of those voter suppression laws.
Alors, donc Jim Chalmers du Parti travailliste. On continue sur la politique australienne et un rapport sur la culture parlementaire qui a été publié cette semaine a révélé qu'un travailleur sur trois au Parlement fédéral avait été victime de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. Le rapport de la commissaire sur la discrimination sexuelle, Kate Jenkins, formule 28 recommandations, dont la création d'une commission parlementaire indépendante chargée de traiter les plaintes et d'appliquer le nouveau code de conduite. Brittany Higgins, qui avait porté plainte pour viol au sein même de l'édifice, a déclaré sur ABC qu'il n'y avait pas encore de changement structurel au Parlement, mais qu'elle espère que toutes ces recommandations seront mises en œuvre. On l'écoute.
I don't think fundamentally anything has changed internally within the building, policy-wise, that would make it, that would sort of stop this from happening to another woman. But I think there would be more sensitivity afforded to another victim going forward. There is a genuine interest about the way that parliamentarians conduct themselves in Parliament House, but I don't think there's been any structural change as of yet.
C'était donc Brittany Higgins. Le chef adjoint de l'opposition fédérale, Richard Mills, demande au gouvernement fédéral d'intensifier ses efforts pour garantir que les Australiens éligibles reçoivent leur injection de rappel du Covid-19 alors que le nombre de cas du variant Omicron augmente. 7 cas d'Omicron ont été confirmés en Australie, 6 en Nouvelle-Galles du Sud et 1 dans le territoire du Nord. Le groupe d'experts du gouvernement sur la vaccination a été invité à revoir les conseils sur le rappel des vaccins et a envisagé bien de réduire de moitié le délai entre le deuxième vaccin et le rappel à 3 mois pour les adultes éligibles. Pour Richard Mills, il est important que le gouvernement fédéral agisse rapidement pour empêcher tout simplement la propagation du variant Omicron. On l'écoute.
What matters now is that with the booster, which is going to be really important in terms of protecting Australians from COVID-19 going forward, is that the government gets ahead of the curve here and actually makes sure that Australians get their booster shots on time. This is a critical moment. We're not through the pandemic yet. The booster is a critical part of it. And Scott Morrison needs to make sure that Australians get that booster in a timely manner.
Ah ouais, donc Richard Mills, du côté de l'Union européenne, eh bien, on se pose tout simplement la question de la vaccination obligatoire. Le point avec Pierre Benazet pour RFI.
Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les Européens ont tout ce qu'il faut à leur disposition pour sauver des vies grâce au contrat d'achat de vaccins mené justement par la Commission pour les 27. Mais à l'heure où les patients qui décèdent du Covid sont les non-vaccinés, le rythme des injections est selon elle trop lent en Europe. Ursula von der Leyen se garde bien d'émettre une proposition formelle, mais elle affirme estimer légitime et raisonnable d'avoir une discussion à 27 sur l'éventualité d'une obligation vaccinale. Il faut bien dire que l'arrivée d'Omicron a engendré une déconvenue de taille dans les projets de la Commission. Elle préconisait une suppression en Europe des restrictions de voyage liées aux zones vertes, oranges et rouges, qui pouvaient entraîner des obligations de quarantaine ou de test. À la place, elle voulait que tout dépende de la vaccination et donc de la détention du pass sanitaire européen. La Commission pousse fortement les vaccins, qui font en quelque sorte partie de ses rares prérogatives en matière sanitaire, et elle fait donc en sorte de soutenir tout ce qui peut favoriser les campagnes de vaccination.
Pierre Benazet pour RFI, 13h07. Toujours sur le virus, l'Organisation mondiale de la santé dit qu'elle s'attend à avoir plus d'informations sur la transmissibilité du variant d'Omicron dans quelques jours, alors qu'on attendait ça dans plusieurs semaines. Des cas d'Omicron ont été jusqu'à présent détectés dans 23 pays au moins. On écoute l'épidémiologiste de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Maria Van Kerkhove.
But it is certainly possible that one of the scenarios is that the virus, as it continues to evolve, may still have a fitness advantage, meaning that it could become more transmissible than Delta, we'll have to see. But we don't know quite yet about the severity.
Docteur Maria Van Kerkhove, l'épidémiologiste en charge de l'Organisation mondiale de la santé. En France, je vous le disais en titre, les autorités durcissent les conditions d'entrée sur le territoire. On écoute Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement français.
S'agissant des déplacements des voyageurs qui viennent de pays en dehors de l'Union européenne, nous avons décidé d'instaurer un test négatif obligatoire de moins de 48 heures pour se rendre en France, que ces voyageurs soient vaccinés ou non. S'agissant des voyages en provenance des pays de l'Union européenne, nous avons décidé pour les non vaccinés de passer le délai du test à 24 heures. S'agissant des pays de l'Afrique australe, le rétablissement des vols se fera bien à compter de samedi, mais il se fera avec un encadrement extrêmement strict et drastique. Seules les personnes qui sont de nationalité française, ressortissants européens, les personnels diplomatiques et les personnels navigants pourront rejoindre la France. Il n'y aura pas de déplacement ou d'accès autorisé à des fins professionnelles, touristiques, familiales, d'études ou même de recherche.
Voilà, donc l'annonce de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement français. Malgré la pandémie du Covid, c'est un autre sujet, mais il ne faut pas oublier une autre pandémie. Hier, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. Et malgré les avancées scientifiques, cette maladie fait encore près de 600 000 morts en 2021. Un vaccin est à l'étude. Écoutez, Nicolas Avila, il fait partie du programme de test du vaccin américain Janssen. Il est basé en Argentine, on l'écoute.
Ils cherchaient des gens entre 18 et 60 ans, VIH négatif, des hommes ou des trans qui ont des relations sexuelles avec des hommes ou avec des trans. J'ai appris qu'il y avait cette étude par les réseaux sociaux. Ils cherchaient des volontaires et je me suis tout de suite inscrit. Pour moi, il s'agit aussi de pouvoir prêter mon corps à la science pour qu'il y ait des avancées sur ce virus du sida dont les premiers cas sont apparus il y a plus de 40 ans. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de doutes, de fausses informations qui se sont propagées. Donc pour moi, c'est aussi un outil qui permet d'avancer des arguments dans ces débats. Dans ma famille, j'ai quelqu'un qui est séropositif et puis dans la communauté LGBT, il y a une très forte stigmatisation du VIH. Donc le fait de pouvoir démystifier tout ça et de permettre des avancées grâce à la science, c'est pour moi très important.
Voilà, donc Nicolas Avila, il fait partie du programme de recherche sur le test du vaccin Janssen, vaccin contre le sida. Et d'ailleurs, restez à l'écoute de ce programme, la journée mondiale du sida, de lutte contre le sida. On en reparle dans quelques instants dans ce programme. Les experts de santé demandent des programmes de dépistage ciblés pour la surdité possible chez les enfants, et ce à la suite d'une étude montrant que le milieu socio-économique, eh bien, les milieux socio-économiquement défavorisés sont susceptibles d'avoir des taux plus élevés de perte auditive. La recherche, publiée dans une revue au comité de lecture du Sachs Institute, intitulée Public Health Research and Practice, a évalué bien plus de 2000 enfants de Nouvelle-Galles du Sud issus de milieux à faible revenu et sur une période de 3 ans. Et le tout a révélé que plus de 40% ne passaient pas le test de dépistage auditif. D'après la professeure de l'université Macquarie, Catherine McMahon, eh bien, il y a plusieurs facteurs de risque qui doivent être pris en compte. On l'écoute.
Poor levels of hygiene and nutrition, risk factors, overcrowding in houses, the hardware of housing, if you like, the ability for things to work effectively, like toilets flushing and there to be good running water, are really important factors that can enhance health, or alternatively, if it's not in good working order, then lead to higher risks of middle ear disease and hearing loss.
Allez, coup d'œil météo pour conclure ce journal. Aujourd'hui, à Perth, il fera 29 degrés, à Adélaïde 24, à Melbourne 31 degrés, Hobart 26, Canberra 28, Sydney 26. Il fera 29 degrés à Brisbane, 34 degrés à Cairns et 35 degrés à Darwin. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Tout comme Christian Porter, eh bien le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, devrait annoncer aujourd'hui qu'il quitte la politique fédérale. Et on l'a vu dans ce journal, durcissement des conditions d'entrée en France et en Europe sous la pression du nombre de cas de Covid sur le continent. Voilà, 13h13, courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour le journal des sports avec Jean-Noël. A tout de suite.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
Journal des sports de ce jeudi. Tout d'abord, on parle des dames, les qualifications de la Coupe du Monde et les Françaises qui ont battu les Galloises 2-0 mardi. Thomas de Saint-Léger, Radio France Internationale.
4 journées de la fin des éliminatoires, les Bleus ont 5 points d'avance sur leur dauphine galloise qu'elles ont battu 2-0 hier soir à Guingamp. Des buts de Kadidiatou Diani et de Selma Bacha, une excellente opération, même si la victoire a mis du temps à se dessiner. La sélectionneuse Corinne Diacre.
On connaissait les forces du Pays de Galles, c'est une équipe qui a bien défendu. On a fait le dos rond, on a eu un peu de chance aussi. Et puis souvent quand on a une occasion contre nous, on a une occasion pour nous derrière et c'est ce qui s'est passé. Mais malgré tout, on met deux beaux buts sur deux phases que l'on avait travaillées toute cette semaine. C'est vrai que ces derniers temps, on était plutôt confrontés à jouer contre des défenses basses, donc où on jouait plutôt en attaque placée. Et là, on a changé un petit peu notre fusil d'épaule en jouant plutôt en contre. Ça nous a réussi ce soir.
On passe au foot masculin avec 10 matchs de Ligue 1 en France hier. Les précisions de Cédric de Oliveira pour RFI.
Oui, Léo Messi a bien présenté son ballon d'or avant la rencontre, mais face à des Niçois très bien organisés, l'Argentin n'a pas brillé, comme ses partenaires d'ailleurs, 0-0, ce qui n'empêchera pas Paris d'être assuré de passer à la trêve en leader. Kylian Mbappé et sa bande comptent 12 points d'avance sur leur plus proche poursuivant, en l'occurrence l'OM qui est allé battre Nantes 1-0 grâce à un but de sa recrue, le Brésilien Gerson. Succès précieux 1-0, tout comme celui de Lille à Rennes 2-1. Les champions de France n'avaient plus gagné en Ligue 1 depuis 2 mois. Coup d'arrêt pour les Bretons, désormais troisième. Lens marque le pas après un nouveau match nul de partout face à Clermont, malgré un but de l'Ivoirien Seko Fofana. Déception aussi pour Lyon, battu par Reims 2-1 à domicile. Prétendant au podium, l'OL n'est que dixième à 6 points de la troisième place. À noter également la victoire de Montpellier à Metz 3-1. Le carton de Strasbourg 5-2 face à Bordeaux. Et puis victoire précieuse de Monaco à Angers 3-1 également.
En Angleterre, le derby de Mersey, remporté par Liverpool contre Everton, 4-1. Et Manchester City, deuxième au classement, qui a battu Aston Villa, 2-1. En Espagne, le Real de Madrid s'est imposé contre l'Athletic Bilbao, 1-0. En Italie, Naples, premier, et Sassuolo ont fait match nul, 2-2. En Australie, le Sydney FC, quintuple champion de la Liga, célèbre son nouveau statut de meilleure équipe sportive d'Australasie. Des recherches menées par un cabinet d'analystes ont vu les Sky Blues détrôner Melbourne Storm, le club de rugby de la NRL, sur la base des résultats des 5 dernières saisons. Les Matildas, elles, ont fait match nul, 1-2 contre les Américaines lors du deuxième match amical à Newcastle mardi soir. Le Ballon d'Or, comme vous le savez, a été décerné lundi dernier, mais il y a eu beaucoup de déceptions de la part des joueurs africains, comme nous l'explique Antoine Grenier pour RFI.
Des déceptions finalement un peu attendues puisque 2 joueurs du continent seulement figuraient dans la liste des 30 derniers nominés. Lors de la précédente édition, pour mémoire, ils étaient 5, donc difficile dans ces conditions d'imiter l'année 2019 où 2 Africains s'étaient hissés aux 4e et 5e places. Cette fois, Mohamed Salah, l'Égyptien, et Riyad Mahrez n'auront pas brillé. L'Algérien, pourtant champion d'Angleterre et finaliste de la Ligue des Champions avec Manchester City, n'a fini que 20e du classement, tandis que Salah, toujours aussi flamboyant avec Liverpool, se hisse dans le top 10, mais il ne termine qu'à la 7e place. 5e en 2019, l'Égyptien n'aura pas bénéficié dans l'esprit des votants de ses 32 buts inscrits en 2021. Mais la principale déception, elle concerne le prix Yashin. Edouard Mendy, le portier de Chelsea, ne reçoit pas le trophée de meilleur gardien de l'année décerné à l'Italien Gianluigi Donnarumma. Le Sénégalais avait pourtant de solides arguments. Sa victoire en Ligue des Champions, son titre de meilleur portier de cette Ligue des Champions et celui de meilleur gardien de l'année décerné par l'UEFA. Pas suffisant, visiblement, face au vainqueur de l'Euro.
Les dirigeants de la Confédération africaine de foot ont voté pour une Coupe du Monde tous les 2 ans, comme nous l'explique Tom Rossi pour RFI.
Ils ont voté oui à l'unanimité sous les yeux du président de la FIFA, Gianni Infantino. Les 54 patrons des fédérations nationales africaines soutiendront fermement l'organisation d'une Coupe du Monde tous les 2 ans, si cela s'avère faisable. La Confédération africaine de foot emboîte le pas du congrès de la FIFA, favorable à cette réforme. Elle est la première instance continentale à le faire. L'Europe à travers l'UEFA et l'Amérique du Sud via la CONMEBOL y sont eux opposés pour éviter de surcharger un calendrier déjà dense. Un argument qu'il pourrait de nouveau ressortir d'ailleurs le 20 décembre lors d'un sommet de la FIFA organisé pour discuter de cette proposition. Mais au-delà du mondial, beaucoup s'interrogent sur l'impact que pourrait avoir cette réforme sur la Coupe d'Afrique des Nations organisée tous les 2 ans. Pour le président de la CAF, Patrice Motsepe, les 2 sont conciliables. Mais il ne dit pas comment.
La principale compétition pour l'Afrique, qui est la CAN, continuera avec certitude. Une partie du processus consiste à s'assurer que les joueurs ne joueront pas plus de matchs qu'auparavant. Il y aura une révision fondamentale des compétitions, ainsi que des structures qui existent depuis de nombreuses années.
Motsepe botte en touche, mais il semble clair qu'il y aura de nombreux changements sur le continent en cas de mondial tous les 2 ans.
Le mondial féminin de handball, c'est parti et les Françaises joueront demain, vendredi, comme nous l'explique Thomas de Saint-Léger pour RFI.
Les championnes olympiques françaises entrent, elles, en lice vendredi contre l'Angola pour la mise en route d'une compétition qui s'annonce très relevée avec de sacrées clientes. Le sélectionneur des Bleus, Olivier Crumbles.
Le tableau est très particulier, hein. Les cinq meilleures équipes du monde sont du même côté, donc il va y avoir des morts de notre côté. L'Allemagne a un potentiel qu'elle n'arrive pas à exploiter depuis 2-3 ans avec des très bonnes joueuses. La Hongrie a aussi formé des jeunes joueuses qui ont du talent. Je pense à ces deux-là prioritairement pour faire un résultat. Après, c'est aussi une compétition pour l'Espagne qui joue chez elle et qui est dans la bonne partie du tableau. On devrait en toute logique retrouver à minima l'Espagne en demi-finale. Et après, est-ce que le Brésil va arriver à se reconstruire, ça peut être aussi une solution pour le Brésil de briller dans cette compétition.
Un mot de l'affaire de la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai et l'Union européenne a déclaré qu'elle souhaitait que la Chine publie une preuve vérifiable que Peng Shuai est en sécurité et qu'elle mène une enquête approfondie et transparente sur ses allégations d'agression sexuelle. Peng Shuai a disparu de la scène publique après avoir accusé un ancien responsable du Parti communiste chinois d'agression sexuelle. Elle n'a eu que quelques contacts directs avec des officiels depuis sa disparition de la vue du public, y compris un appel vidéo avec des officiels olympiques le 21 novembre dernier. L'Union européenne ne cache pas ses inquiétudes pour Peng Shuai. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Suis la flèche.
Et c'était Hubert Félix Thiéfen, la fin du roman qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de décembre. Allez, 13h et presque 30 minutes, courte pause. Et comme chaque jeudi, nous allons parler d'économie avec Nicolas Perpich. Tout de suite après ça.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël. Oui.
L'économie australienne s'est contractée pendant les 3 mois jusqu'à la fin du mois de septembre, mais pas par autant prévu.
Oui, tout à fait. Donc, en gros, l'Australie a très bien résisté au choc économique depuis le début de la pandémie. Mais là, c'est sûr qu'il y a eu des confinements très longs à Melbourne et à Sydney. Donc là, on voit que le produit intérieur brut est baissé par 1,9% dans les 3 mois jusqu'au mois de septembre. Donc c'est quand même un peu moins qu'était prévu par des économistes qui pensaient que ça allait baisser par 2,7%. Mais quand même, c'est quand même une baisse et c'est vraiment à cause des confinements. C'est pas aussi pire que l'année dernière quand l'économie est baissée par 6,8% dans les 3 mois jusqu'au mois de juin quand il y avait les premiers confinements. Mais quand même, c'est la troisième plus grande chute de l'économie qu'on a jamais vue ici en Australie. La plus grande raison, c'est parce que les gens qui étaient confinés dépensaient moins d'argent. Donc, les dépenses par les ménages sont baissées par 4,8% et les gens dépensaient moins sur les restos, les cafés, le sport, la culture, le transport. Donc ça, c'est baissé par 5,8%. Mais bon, ce qui a aidé l'économie nationale, c'est que c'était les États qui n'étaient pas en confinement. Là, leurs économies ont continué à marcher plutôt bien. Et aussi, il y avait de l'aide du gouvernement. Donc, ça veut dire qu'il y avait des paiements pour des pour les gens, pour les aider avec la crise. Donc en fait, le revenu disponible brut qui fait part des revenus dont dispose un ménage, et ça s'est monté par 4,6%. Donc ça, c'était pas mal. Donc ça, c'est les paiements du gouvernement. Mais quand même, l'économie australienne reste plus petite qu'elle l'était avant la crise de Covid-19. Donc en 2019, l'économie était quand même plus grande qu'elle était maintenant. Donc ça fait déjà plusieurs années que vraiment l'économie australienne ne grandit pas encore. Donc on espère qu'on n'aura plus de confinement et que la croissance économique va recommencer, que les prochains trois mois ne vont pas résulter dans une contraction de l'économie encore. Sinon, ça, c'est la définition d'une récession. Donc, voilà. S'il n'y a pas de confinement, ça devrait aller quand même.
Et puis, on parle de la guerre commerciale entre l'Australie et la Chine qui pourrait bientôt finir, selon un conseiller du président américain, Joe Biden.
Oui, voilà, vraiment très intéressant. C'était un discours par Kurt Campbell, qui est le conseiller à Joe Biden pour la région de l'Indo-Pacifique. Et là, il était en train de parler, c'était un discours au Lowy Institute, ici en Australie, et il dit que les efforts par la Chine de punir l'Australie économiquement n'ont pas marché. En fait, lui, il pense que Beijing va commencer à se re-engager avec l'Australie, mais en des termes plutôt favorables avec ou pour l'Australie. Et il dit que, voilà, on a vu que Beijing avait annoncé des sanctions, des tarifs sur le charbon, l'orgue, le vin, le bois, les langoustes. Et selon lui, l'idée, c'était de mettre l'Australie carrément à genoux économiquement. Mais il a dit que bon, ça s'est pas passé et que l'Australie a résisté. Et il pense que bon, la Chine maintenant, il n'a pas donné de date, mais il a dit que la Chine va commencer à re-engager parce que c'est dans l'intérêt de la Chine quand même d'avoir une bonne relation avec l'Australie. C'est vrai quand même que ces tarifs ont fait beaucoup de mal à certains secteurs de l'Australie, de l'économie, en particulier pour les viticulteurs et pour les exporteurs de langoustes. Mais il y a beaucoup d'autres choses, d'autres biens où ils ont pu trouver des nouveaux marchés. Donc ça ne les a pas trop frappés. Et selon M. Campbell, la Chine respecte la force et la résistance de l'Australie à ça. Donc il pense que ça va passer. Il a dit que le président Biden avait parlé brièvement avec le président chinois Xi Jinping le mois dernier. Il avait parlé de cette situation entre la Chine et l'Australie. Mais il n'y a pas eu de résultat. Le président Biden a dit que les États-Unis étaient concernés, mais bon, quand même pas de résultat. Et c'est sûr que pour le moment, la Chine ne lève pas ses sanctions et ni ses tarifs sur tous ses biens australiens pour le moment.
Merci Nicolas pour cette analyse. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Juste avec un petit peu d'amour.
Et c'était Eddie Mitchell, vous l'aurez reconnu, sa voix, Eddie Mitchell, qui revient avec un nouveau titre, Un petit peu d'amour. Il est 13h40, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food. Et regardez comment il les réalise pas à pas. sbs.com.au/food.
Bonjour, ici Audrey Bourget. Heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode d'À table Kitchen Conversations. Aujourd'hui, on vous présente le premier bar à vin mauricien d'Australie. Il s'agit de Manzé à North Melbourne. On a rencontré le chef et copropriétaire Nagesh Sitia juste avant l'ouverture de son restaurant il y a quelques semaines.
I grew up in Mauritius near the beach. My parents built this amazing house near the beach not long after I was born, and just grew up going fishing with my dad. Both my parents cook a lot and still do. I think one mainstay my whole life has been my dad going fishing, not coming home when he said he was supposed to, and then him showing up with a whole lot of fish, and then just like, despite there already being dinner on the table, just having to cook one of those extremely fresh fish that he just caught and eating that as a family. And just grew up eating lots of vegetables and very vibrant food.
On vient d'entendre Nagesh Sitia, un chef de Melbourne qui est né et a passé son enfance à Maurice avant de déménager en Nouvelle-Zélande puis en Australie avec sa famille. Même s'il a quitté son île natale depuis plusieurs années, elle garde une place spéciale dans son cœur.
Everyone, or most people, know it as a bit of an island paradise off the coast of East Africa. I think the most amazing thing about Mauritius is the mix of people who have wound up there over history, and that we all live there in harmony. Like, we, you know, for the most part, all respect each other. Everyone sort of celebrates each other's religious holidays and eats each other's food and consumes each other's culture and live very closely together and all speak the same language, which is a really incredible thing. So everyone speaks Creole, and it's a really just unifying thing.
La diversité de la population mauricienne est ce qui rend sa culture culinaire riche et vibrante.
We know that our family and a lot of Mauritian families came from South India, and a lot of the flavors are very similar to South Indian cooking, like Tamil cooking and Sri Lankan cooking, like lots of mustard and freshness, lots of fresh herbs and seafood, and more sort of tropical ingredients. And then there's a big Hakka Chinese population and a really big Chinatown, lots of French pastry and more Muslim leaning cuisine. So like Hyderabadi style food, like biryanis and things like that. And then of course, African influence as well. So more, I guess what you'd call like Creole style food, which is when you kind of hit that middle ground, there's a lot of dishes that are a mix of all these influences and really unique.
Après être arrivé en Nouvelle-Zélande et en Australie, les parents de Nagesh Sitia sont restés connectés avec Maurice grâce aux plats qu'ils cuisinaient pour leur famille et amis. Alors quand leur fils a commencé à travailler dans des restaurants, il s'est naturellement retrouvé à cuisiner les plats avec lesquels il avait grandi. Après une série de pop-up mauriciens, il a ouvert les portes de son propre restaurant en novembre 2021 à North Melbourne. Les Mauriciens parmi nos auditeurs reconnaîtront tout de suite le nom, Manzé, qui veut bien sûr dire manger en créole.
So we'll be working a lot with seafood and really nice vegetables, eventually working towards having our own little plot of land to grow vegetables on. But just, yeah, having a really warm, inviting little space where people can have some great drinks and some really flavorsome food, with flavors that they might be unfamiliar with. But also, it turns out there's a million Mauritians that live in North Melbourne, so plenty of people will be familiar with it as well. And I hope I can sort of remind them of their childhood.
Pour le moment, Manzé offre un généreux menu prix fixe où Nagesh Sitia présente son interprétation de plats comme le bouillon poisson et le poutou. Il prévoit éventuellement ajouter plusieurs petites bouchées ou gajak au menu.
So they're called gajak in Mauritius. It's a word for snacks. So all sort of finger-sized things like the samosa, or we eat lots of little bread rolls called du pain maison, which is descended from French baking technique, with all sorts of things like pickled octopus or stir-fried chicken liver. So little snacks on our own bread, things like that, or fresh fruit fermented with some chili or things like that.
Un autre classique mauricien, la rougaille, devrait aussi faire son apparition sur le menu de Manzé.
We just got our charcoal grill delivered, so I'm looking forward to just grilling some nice fish with tomato-based sauces, just as tomatoes come into season. Just on the weekend, for our first takeaway weekend, we served pipis in a sauce called rougaille, which is a real mix of that sort of African and Indian cooking, like a shallot, ginger, and thyme base, cooked with fresh tomatoes, lots of fresh herbs, and not cooked down. It's cooked just enough for the tomatoes to break down and still be vibrant, and you can still taste the ginger and the thyme. And we grilled some pipis on a fire and tossed it all through. And everyone really loved that, so we'll probably bring that back as maybe an entree dish, maybe with okra or choco.
Et comme Manzé est un bar à vin, la carte des vins a été pensée longuement par Moira Tirta, qui a principalement choisi des vins nature.
A list that's like equal parts approachable and interesting, but most importantly, well made with good values from like the farming being either organic or with organic principles, and the people who make it as well, caring about the vineyards and the environment.
Manzé est sans aucun doute l'un des restaurants les plus intéressants à ouvrir à Melbourne dans les dernières années. Il ne compte que 25 places, donc si vous voulez découvrir la cuisine de Maurice ou vous remémorer de délicieux souvenirs, on vous conseille de réserver au manzé.com.au.
SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food.
Tu ne dansais pas, tu rayonnais. Début de soirée au clair de brune. Du monde, de la musique, des saccades, ton tempo. Tes pas ont battu ma chamade avec des talons hauts. J'ai vu ta toison dans du wax. J'ai vu la grammaire de tes hanches. J'ai pris note, j'ai vu que les...
C'était Edgar Sekloka et cette chanson « Veux-tu » qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de décembre. 13h58, on va faire un retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. L'actualité donc de ce 2 décembre, tout comme Christian Porter, eh bien le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, devrait annoncer qu'il quitte la politique fédérale aujourd'hui. Et en France, on l'a vu, durcissement des conditions d'entrée, donc en France et en Europe également, sous la pression du nombre de cas de Covid qui explose littéralement sur le continent. <t'-> Voilà, on arrive à la fin de notre programme en français sur Radio SBS pour aujourd'hui. Je vous rappelle notre site internet sbs.com.au/french pour rester en contact avec nous. Nous sommes également sur Facebook, facebook.com/sbsfrench, et nous sommes également sur Twitter @sbsfrench. Prochain rendez-vous avec le français, ce sera avec moi-même samedi à 13h et Jean-Noël Ducasse dimanche à 13h également, et la semaine prochaine mardi et jeudi 13h également. Voilà, c'est tout pour le programme pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon après-midi à tous et un bon appétit si vous êtes toujours à table à samedi.
Partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.